Mes amis, aujourd'hui je veux poursuivre mes dernières réflexions consacrées à l'évidence. Évidence qui nous fait découvrir tant de choses que nous ne soupçonnions même pas car nous ne les sentions plus. Ainsi, la plus grande des évidences, c'est la création. Incontestablement, nous voyons la création et tout ce qui la compose. Nous voyons les montagnes, nous voyons les lacs, les mers, les océans et les fleuves nés de sources plus ou moins cachées. Nous constatons la vie et nous voyons les êtres vivants, leurs déplacements, leurs sensations, leurs besoins et leurs désirs. Et parmi tous ces êtres vivants, il y a les hommes doués d'intelligence, ces hommes qui découvrent peu à peu l'intelligence gérant les univers et dirigeant les constituants de la matière. Les vrais scientifiques, ceux qui sont honnêtes, sont émerveillés par cette intelligence qui dirige tout. Et nous ? Nous, nous profitons surtout des merveilles que la nature nous présente. Nous sommes en admiration devant les merveilleux paysages que nous offrent les montagnes, les rivages océaniques et tant d'autres choses de la nature. Et plus près de nous, nous restons muets devant des sous-bois magnifiques, des champs pleins de plantes qui serviront à notre nourriture, et les fruits des arbres et tant d'autres choses. Nous ne savons plus que nous taire face à ces merveilles. Et soudain, face à toutes ces évidentes merveilles, nous cherchons leur créateur. Qui a bien pu faire tout cela? Alors, nous pensons à Dieu, le Dieu Père et créateur de tout ce qui existe dans l'univers. Notre émerveillement se transforme en adoration. Oui, nous découvrons que Dieu existe vraiment et que Dieu est amour puisqu'il a tout mis entre nos mains. Et nous sentons aussi que Dieu nous aime, chacun, individuellement, puisqu'il a pensé aux besoins de chacun d'entre nous. Nous sommes de plus en plus émerveillés. Nous venons de découvrir l'évidence fondamentale, et nous nous taisons. Oui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous entendons, tout ce que nous touchons, tout cela a eu besoin d'un artisan intelligent, d'un créateur extraordinaire, sachant tout, comprenant tout, calculant tout et réagissant aux appels des hommes, ces êtres vivants qui cherchent toujours des explications pour tout. Et ces êtres humains, face à toutes ces évidences qu'ils viennent de découvrir, tombent en adoration et se mettent à prier. Oui, l'homme face aux merveilles si nombreuses et si inattendues de la nature, l'homme découvre sa toute minuscule petitesse et se tourne vers son Créateur et Père. Et il prie. L'homme se tourne d'abord vers son Créateur, et voici qu'il découvre le cœur de Dieu. Et ce cœur de Dieu, si immense, est pourtant si proche des hommes si petits, si minuscules, si fragiles. Oui, l'homme découvre la bonté de Dieu, sa douceur, sa sollicitude de Père, qui est une vraie sollicitude maternelle. Les hommes ignorent tout de Dieu, mais découvrant ses bienfaits, ils tombent en adoration devant lui. Les hommes sont devenus adorateurs de Dieu, mais pas seulement adorateurs, car les hommes sensibles deviennent amoureux de leur Créateur, de leur Père si infini et pourtant si proche d'eux. Et voici que les hommes se mettent à parler à Dieu. Ils parlent de leur amour à celui qui est amour. Ils demandent à l'infini de se rendre fini pour eux, pour qu'ils puissent lui parler et même lui demander des choses à lui qui a tout prévu. En fait, les hommes, à la fois émerveillés et troublés devant la majesté de la nature et de ses lois, se tournent vers Dieu pour essayer de le contempler. Mais cela n'est pas possible. Alors les hommes désolés pleurent. Et voilà que le cœur de Dieu se fait petit, tout en restant infini. Le cœur de Dieu écoute les hommes et essaie de leur répondre. Et les hommes, étonnés mais heureux, chantent l'amour de Dieu. Mes amis, tout cela, n'est-ce pas de la mystique? Tous les saints, tous sans exception, ont été des mystiques. Et cela ne peut pas être autrement. On pourrait citer de nombreux exemples, mais nous nous contenterons aujourd'hui de saint Jean de la Croix. C'était un homme ordinaire, mais il aimait beaucoup son Seigneur. Il était émerveillé par Dieu qui vivait avec lui, sans se montrer. Et il le disait, et il incitait les autres moines de sa congrégation à vivre de mieux en mieux les désirs de Dieu. Mais cela ne plaisait pas à tout le monde. Et ses supérieurs l'ont même emprisonné, car il aimait trop son Seigneur, et il osait le dire. La liste des saints que nous pourrions citer est longue, car tous les saints, sans exception, ont été des mystiques. Cela ne peut pas être autrement. Mes chers amis, avant d'entrer dans d'autres détails concernant la mystique, je veux penser à nous. Nous avons tous tant de choses à apprendre. Et souvent, nous posons des questions à des personnes que nous croyons plus compétentes que nous. Poser des questions, s'informer, vouloir se documenter, ce n'est pas perdre les pédales, bien au contraire, c'est faire preuve de prudence et même d'intelligence. Les savants, même les plus grands, sont spécialisés dans une seule branche des sciences dites modernes. Alors, quand ils sont confrontés à certains problèmes, ils s'informent, ils posent des questions. Malheureusement, on ne sait pas toujours leur répondre. Et les personnes interrogées peuvent répondre « je ne sais pas ». Il faut toujours avoir de l'estime pour ceux qui reconnaissent leur ignorance, car c'est la preuve qu'elles connaissent leurs limites et ne disent pas n'importe quoi, comme cela arrive si souvent aujourd'hui. Maintenant, nous pouvons reparler de la mystique dont presque tout le monde se moque. Mais qui aujourd'hui a étudié en profondeur la vie des saints? Qui connaît les grands mystiques comme, par exemple, Saint Jean Bosco, qui a tellement travaillé pour relancer l'éducation des jeunes abandonnés, pour leur redonner Dieu et les remettre dans le droit chemin, le chemin du bonheur? Grâce aux saints, nous découvrons un monde inconnu dont nous avions peut-être peur. Mes amis, qui ose dire aujourd'hui « j'ai besoin de sentir Dieu » et qui ne réagit pas intérieurement quand il entend ces phrases stupides du type « on n'a pas besoin de sentir Dieu » ou encore « il faut savoir se passer de l'Eucharistie, il faut se méfier des mystiques ». Pourtant, et cela c'est la vérité, une vérité que nous sommes obligés de constater, nos contemporains à qui l'on a dit toutes ces choses inhumaines sont très malheureux, car ces phrases ne sont pas la vérité. Il faut revenir à Jésus qui disait « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Mes amis, oui, osons dire que nous avons besoin de Dieu, que nous avons besoin de sentir Dieu, pas par une sensation charnelle, mais d'une manière que les mots humains ne peuvent exprimer, car ils n'existent pas. Merci aux saints mystiques qui nous font découvrir la vérité, celle de Dieu qui nous aime. Mes chers amis, je devais vous dire tout ce que je viens de vous dire, car vivre avec Dieu, c'est le bonheur. Et si nos papes nous demandent depuis tant d'années de réévangéliser le monde, et particulièrement d'évangéliser Internet, c'est qu'il y a là une vraie mission à remplir, et elle est à notre portée. Surtout ne manquons pas le rendez-vous. Et pour cela, faisons ensemble une petite expérience. Pensons à Dieu. Pensons à Jésus, la parole de Dieu, son Fils, qui nous a tous mis dans son cœur pour que nous soyons plus près de lui, particulièrement pour le consoler à Gethsémani, là où il ne pouvait pas avoir de consolateur. Jésus, Fils de Dieu, ouvre nos cœurs à la douleur de son cœur. Et sur la croix, apercevant Marie sa mère et tout proche d'elle son disciple Jean, il dit à Jean « Voici ta mère » et à Marie « Voici ton Fils ». Et peut-être que, dans notre méditation, nous comprenons que Jésus nous dit, à nous, pauvres hommes du XXIe siècle, « Mon ami, va vers ta maman, elle te comprendra, car elle aussi a connu la douleur de Dieu en son Fils, la douleur que l'on ne peut qualifier, car elle est sans nom, mais une douleur à la taille de l'humanité, le monde des hommes créés à l'image de Dieu. » La douleur de Dieu. La douleur de celui qui ne peut pas souffrir. Quel mystère! Alors, sans savoir, car nous ne savons pas grand-chose, voire même rien des choses de Dieu, nous nous tournons vers Marie, notre mère chérie, et nous lui disons « Votre Fils, nous l'aimons. Dites-lui que nous l'aimons vraiment, car nous ne savons pas comment le lui dire. » Et nous pouvons ajouter « Marie, Notre-Dame des douleurs, de nos douleurs, nous allons essayer de vivre un peu plus avec vous, Mère de Jésus, avec vous qui avez connu toutes les richesses, mais aussi les souffrances de l'Eucharistie. Notre-Dame des douleurs et de l'Eucharistie, priez pour nous.